Chapitre 57. Le hall d'entrée ressemblait à celui d'une station de ski désertée des années 80. De grands espaces aux couleurs criardes, des escaliers et des couloirs interminables, avec des portes partout, sans âme. L'homme qui les accueillit, un grand roux barbu dans une chemise à carreaux, caché sous une casquette de baseball, parut très surpris. Il les conduisit vers une passerelle pour rejoindre un immeuble un peu plus loin, où se trouvait une partie des responsables du village. Ils marchaient à 11, et pourtant Ludivine avait le sentiment qu'ils étaient minuscules dans ce complexe froid, perdu dans ces corridors de tôle rouge. C'était comme de traverser une vaste cité HLM, en partie abandonnée. Le vent sifflait dans les interstices, et les ampoules grésillaient au milieu de ce labyrinthe disposé sur plusieurs niveaux. Une porte s'ouvrit devant eux, et un homme apparut tenant un enfant à chaque main. Il y avait aussi des enfants ici, réalisa Ludivine. Une école, probablement une petite clinique, des hangars de nourriture, de quoi survivre isolé pendant l'hiver. Elle comprit qu'il devait y avoir des périodes entières, durant lesquelles Valsegond était totalement coupé du reste du monde. Et elle se mit à prier pour que la neige qui tombait dehors ne soit pas le début d'un de ces moments. Rester coincé avec Gert Brussin, ici même, l'angoissait profondément, même s'il était prisonnier et enfermé dans une remise pendant toute la durée du blizzard. Ils grimpèrent quelques marches, et après deux coudes, pénétrèrent dans un réfectoire où une télévision diffusait un bulletin météo qui n'annonçait rien de bon sur le secteur. Des vieux canapés fatigués occupaient le centre de la pièce, et des tracts, imprimés à la photocopieuse, décoraient une partie des murs. « Je vais chercher un responsable, » dit le grand roux, avant de s'éclipser. Ludivine s'approcha des affichettes. Apparemment, Valsegond avait sa propre station radio, et chaque famille pouvait venir ici signer de son nom des référendums ou des pétitions exigeant la réparation de tel ou tel équipement collectif, l'installation d'une nouvelle antenne satellite, la création d'un mini-golf à la sortie du village. Dans le couloir, la gendarme perçut des voix de femmes discutant au loin, puis un éclat de rire qui s'éloigna. Après 5 minutes, un homme aux cheveux poivre et sel entra tout essoufflé, le visage creusé de rides, alors qu'il ne devait pas avoir plus de 45 ans. La peau mate, des petits yeux noirs qui brillaient. Il dégageait une étrange bonhomie, bien que la vision de tous ces uniformes de la Sûreté du Québec l'ait affolé. « Calice ? » jura-t-il. « Qu'est-ce qui se passe donc, là ?» L'inspecteur-chef Malvois se présenta, et sur un ton aussi rassurant que possible, lui demanda. « Est-ce qu'un étranger est arrivé dernièrement chez vous ? Nous recherchons un homme qui répond au nom de Gert Brussin, cheveux gris, bedonnant, avec l'accent français. Non ? Pourquoi ? Est-ce qu'il peut être entré dans le village sans que vous l'ayez remarqué ? Il ne serait pas resté inaperçu très longtemps. Ici, c'est petit, on se connaît tous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi autant de monde, là, d'un coup ? Nous devons rencontrer Marcus Locard au plus vite. C'est bien un habitant de Valsegond. Oui, il vit là avec sa femme, leurs enfants et petits-enfants. Pourquoi ? C'est urgent. Nous voudrions lui parler, intervint Ludivine, sans sa famille. Si Locard avait fui si loin, ce n'était pas pour tout raconter de son ancienne vie à ses nouveaux voisins. Elle était prête à parier que personne n'était au courant et estimait qu'il avait le droit à ses secrets. « Je vais vous le faire chercher, » répondit l'homme, avec une certaine angoisse. La télé diffusait des publicités pour de la nourriture, des quantités astronomiques de nourriture, et pour vanter les qualités de voiture. Les deux s'enchaînaient, bouffe, bagnole, bagnole, bouffe. De temps en temps, un programme journalistique venait couper ces longs tunnels d'ode à la consommation. Lorsque Marcus Locard entra dans la salle, Ludivine se leva. Il était grand, sec, cheveux blancs comme la neige, joues creusées, lèvres fines, nez aquilin et des yeux d'un bleu pâle, presque maladif. Il tira le col de son pull et embrassa tous les enquêteurs d'un seul et long regard circulaire. Marcus Locard, fit Ludivine en lui tendant la main, nous sommes venus de loin pour vous parler. Nous sommes de la gendarmerie nationale française. Nous venons de Paris.
J'entends ça,
dit-il, avec un accent québécois à peine prononcé. La situation est un peu compliquée. Peut-être que vous préféreriez que nous en parlions seuls, dit-elle en lançant un coup d'œil vers le responsable qui était parti le chercher et les trois autres personnes postées dans l'embrasure de la porte.
Ai-je fait quelque chose de mal ?
S'étonna-t-il avec une expression un peu inquiète.
Non, vous êtes en danger, répliqua Ludivine, à cause de votre passé.
Cette fois, le vieil homme releva le menton et la fixa droit dans les yeux. Après un silence, il pivota pour faire signe à ses amis que tout allait bien et qu'ils pouvaient sortir. La porte se referma derrière eux.
« Je vous écoute, » dit-il.
C'est à propos de Pestilence et d'Auditeur Ferry. La pomme d'Adam de Locard se souleva. Sa main chercha un appui et Seignon s'empressa de lui approcher une chaise. « Je sais que vous n'avez plus entendu ce nom depuis très longtemps, » fit Ludivine. La jeune femme avait pris les choses en main, et personne ne semblait vouloir l'interrompre.
« Plus de 30 ans, »
chuchota-t-il, manifestement sous le choc. « Vous avez quitté Pestilence lorsque vous vous êtes rendu compte que Ferry n'était pas clair. Depuis, le hameau a beaucoup changé. La situation a dégénéré, monsieur Locard. Gerthe Brussin a pris les choses en main et... Je vais faire court. Nous pensons qu'il est ici pour vous tuer. Locard se redressa sur sa chaise.
Me tuer ? Pourquoi ?
Après tout ce temps, je croyais que c'était pour fermer la boucle. Mais à présent, je me demande si vous ne savez pas quelque chose qu'il voudrait taire.
Moi ? Mais je ne suis pas retourné en France depuis 30 ans. Je ne les ai plus revus, ni lui, ni les autres.
Vous étiez proche de lui à l'époque ?
De Brussin ?
Pas plus que de Ferry.
Vous semblez connaître toute l'histoire, n'est-ce pas ? Alors, vous imaginez sans peine ce que j'ai pu ressentir quand j'ai compris qui était réellement Ferry. Je suis parti loin d'eux, loin de la France où je n'avais pas été un enfant bienvenu, loin de ce passé insupportable. Et j'ai enterré derrière moi toute cette partie de ma vie. Personne n'est au courant ici. Personne, pas même ma femme.
Ses prunelles brûlaient avec l'intensité d'une insondable douleur. Il brandissait un index devant lui et s'adressait à tous les enquêteurs de la pièce, comme s'il les menaçait. « Nous n'avons pas l'intention d'ébruiter votre histoire, » continua Ludivine. « C'est vous que ça regarde. En revanche, nous voudrions comprendre ce que Brussin peut vous vouloir. »«
Vous l'avez arrêté ?»
La gendarme regarda Malvois, puis Apricot. Mal à l'aise.
Non, pas encore.
Comme je vous l'ai dit, nous pensons qu'il est ici, ou en chemin pour venir vous supprimer. Locard secoua lentement la tête. Les souvenirs affluaient derrière les globes bleus, happant son attention.
Je n'ai pas envie de remuer tout ça,
avoua-t-il après un moment. Je comprends.
Êtes-vous certain qu'il va venir, depuis tout ce temps, si loin, juste pour moi?
Il a déjà tué Egon Turin.
Egon ?
Une partie de l'esprit du vieil homme n'était plus là, avec eux. Il était loin dans le passé, au milieu de celles et ceux qui avaient été ses frères et sœurs. Je pense que Brussin veut éliminer les enfants parfaits qui ont quitté le groupe, osa Ludivine.
Cela fait bien longtemps que j'ai compris que nous n'étions pas des enfants parfaits, mais eux n'ont jamais voulu l'accepter. Je vais vous dire. J'ai toujours su que le vrai danger de Pestilence, c'était Brussin. J'ai toujours su qu'une fois Ferry mort, Brussin allait devenir fou. Qu'il serait un prédateur sauvage. Il le portait déjà dans ses yeux à l'époque, vous savez. Ferry était un entrepreneur éclairé par une vision, tandis que Brussin n'était qu'un idéologue revanchard, frustré par une enfance dure, une brute. Vous allez me protéger, moi et ma famille. Je ne veux pas les mettre en danger.
Il n'y a qu'une seule route pour arriver jusqu'ici, intervint l'inspecteur-chef Malvois. Je vais placer un de mes gars dans une chambre qui donne sur l'entrée du village, et un autre devant chez vous, dans le couloir de service au cas où. Nous serons là pour l'arrêter. Ne vous inquiétez pas. Tout ira très vite. Il n'aura pas le temps de comprendre.
Les yeux pâles se levèrent vers le flic. Locard semblait dubitatif, mais il finit par acquiescer.
« Je vous fais confiance. »
Il se tourna vers Ludivine.
« Vous savez de quoi il est capable, n'est-ce pas ? Je le vois dans votre attitude. Vous le craignez. »
« Sauf votre respect, monsieur, » fit le sergent Coutan en se frottant la moustache. « C'est un homme un peu âgé, et nous sommes 6 policiers armés. Si vous ne désirez pas le voir, vous n'aurez même pas à le croiser. »
Marcus Locard plongeait ses yeux bleus dans ceux de Ludivine. Il n'était pas bien. Elle pouvait le sentir. Il avait vécu 3 ans avec les enfants parfaits. Il les connaissait mieux que quiconque. Et il avait peur.
Ludivine était excédée. Personne ne l'écoutait. « Miss, nous serons tous à proximité, » insista Malvois, en lissant la veste de son costume, sa parka polaire dans l'autre main. « Même si je suis certain que Brussin n'arrivera pas en pleine nuit avec la neige qui tombe, nous serons réveillés en un rien de temps si notre garde le repère. » « Ce n'est pas assez. »«
Il est déterminé peut-être, » rappela Coutan. « Mais croyez-moi, nous sommes arrivés au bon moment. Là, dehors, avec toute la poudrerie, personne ne prendrait la route. Ce Brussin n'est pas un magicien.
Et s'il est déjà là, s'il est arrivé juste avant nous et que personne ne l'a remarqué ?
Tout le monde ici nous l'a confirmé. Ils auraient entendu son véhicule, ils l'auraient vu garer quelque part. En plus, c'est un complexe étendu et il n'y a pas de plan. Il ne pourrait pas s'y repérer sans demander de l'aide. Il est impossible de trouver le logis de M. Locard sans se renseigner.
Malvois donna le coup de grâce.
« De toute façon, ils sont en train de diffuser sur leur radio, en ce moment même, un message d'alerte pour prévenir tous les habitants. Locard nous l'a confirmé. Ils écoutent tous la radio le soir. Ils sauront tous, et ils vont s'enfermer. Je l'ai dit, je vais affecter un de mes gars à la surveillance de l'entrée. Un derrière chez Locard, et nous allons patrouiller par deux. Croyez-moi, vous pouvez dormir tranquille. Il est plus probable que Brussin soit arrêté demain quelque part sur une route. » Sa voiture coincée ou à la sortie d'un motel à Radisson, s'il a été prudent.
Ludivine capitula, sous le regard froid d'Aprican, qui ne pipait mot. Elle ne savait s'il l'approuvait, ou au contraire, s'il s'insurgeait intérieurement de ses excès de prudence. Michel Tanguy, le cadre touridé et souriant, proposa de les guider vers des chambres qui venaient d'être aménagées pour eux. Pendant que tous s'organisaient pour les tours de garde, Michaelis s'approcha de Ludivine.
« Je partage vos doutes, mais ils n'ont pas tort. Brussin est peut-être ingénieux et machiavélique. Il n'est pas chez lui et il ne peut accomplir des miracles. S'il était déjà là, ça se saurait. Les flics ne manqueront pas de le voir venir s'il parvient à débarquer en pleine nuit. »
« Je ne sais pas. Je ne le sens pas. Il pourrait avoir loué une motoneige et arriver par derrière, il… »«
Relaxe, Ludivine. Il a 68 ans. Et même si c'est un roublard, ce n'est pas non plus Superman. Il n'y a que dans les films que les méchants surgissent dans le dos des gentils, dans de pareilles circonstances, ok ?»
La jeune femme serra les dents. Elle avait le sentiment de n'être comprise ou écoutée par personne.
Brussin n'est pas du genre à faire tout ça sans un plan. Croyez-moi.
Michaelis l'observait, embarrassé. Quelque chose dans l'attitude de la gendarme, dans sa persévérance, le dérangeait. Était-ce parce qu'elle ne renonçait pas là où tous baissaient les bras, trop confiants ? Il se contenta de lui donner une tape amicale sur l'épaule et ramassa son sac pour suivre le mouvement dans le couloir. Ludivine tira sur la manche de Seignon.
« Je peux te demander une faveur ?»
Le colosse secoua les épaules.
« J'ai pas envie d'être seul cette nuit. On peut dormir dans le même appartement ?»
Seignon sourit avec une certaine tendresse. Il la prit par les bras et la serra contre lui.
« Tant que tu ne me demandes pas de circuler toute la nuit avec toi dans ces couloirs flippants, je suis ton homme. »